parlons de Molière. L'auteur qui fait des pièces et qui les joue lui-même, s'il fait des chefs-d'œuvre et s'il les interprète, il devient alors et de toute évidence un auteur accompli.
Parlons de Molière et pendant toute une semaine, premier épisode, l'envol de Jean-Baptiste.
Ce qui m'a passionné dans Molière, c'est que c'est quelqu'un qui a fait le théâtre du dedans, qu'il a vécu, qui a toujours travaillé avec une troupe d'acteurs, qui a voyagé avec eux, qui a souffert avec eux, qui a cherché avec eux, qui n'a pas été un monsieur qui est assis dans une chambre qui rêve en composant des pièces de théâtre, mais quelqu'un qui voyage, qui transpire, qui vit dans la crasse, dans l'obscurité, dans le froid, dans la difficulté physique, et donc qui souffre le théâtre par toute sa peau et ses muscles.
Le théâtre se vit du dedans et se vit dehors, disait Maurice Béjart. Il se vit dans l'effort, la crasse, la sueur. Et quand surgissent le capitaine Fracasse de Théophile Gautier ou les géants de la montagne de Pirandello, les bonnes gens crient « Viens voir les comédiens !» Et les bonnes gens rêvent, en allant à la représentation le soir, de déposer leur statut d'habitant sédentaire, qui les fixe dans un rôle social, tandis que de leur côté, les comédiens, dont le statut est de tenir tous les rôles tour à tour, rêvent d'avoir un foyer comme les spectateurs, avec un lit à soie, une table, une porte qu'on puisse fermer, et sous laquelle passe l'odeur de la soupe. Ainsi, nous représentons-nous Molière et ses compagnons, très endurants. De 1645-46 à 1658, ils circulèrent à travers la France et nous pensons que c'était en tirant le chariot de Thespis comme dans la mythologie grecque. L'image de la carriole est si forte d'ailleurs qu'elle a donné naissance à une autre légende. Dans les années 1820, un soir, un paysan se serait présenté devant la Bibliothèque nationale. Une charrette l'accompagnait, il aurait dit que s'y trouvaient les papiers de Molière. Mais trouvant grille fermée, il serait reparti pour ne plus jamais revenir. L'indigence de Molière, les papiers de Molière, autant de contes, le milieu naturel de Molière était un milieu mondain, comme on disait au XVIIe siècle. Cependant, notre homme ne détestait pas être pris pour un autre, il aimait passer d'un état social à l'autre. En scène, changeant à vue de costume et de silhouette, nous allons avoir, en 5 jours, bien du mal à l'identifier.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec un excellent guide, néanmoins, en la personne de Georges Forestier. Bonjour Georges Forestier.
Bonjour.
Alors vous avez, avec votre compère Claude Bourqui, donné un théâtre de Molière en 2 volumes aux éditions de la Pléiade et vous préparez une grande biographie de Molière. Et vous allez, au long de nos 5 émissions, évidemment, démolir beaucoup d'idées reçues avec infiniment de plaisir, comme un jeu de quilles, non ?
On va essayer.
Hein ? Ah oui, oui.
Vous m'avez tendu la perche.
C'est ça, votre intention. Je parlais des papiers de Molière qui n'ont pas existé, qui auraient été livrés par un paysan qui a été empêché dans son intention dans les années 1820. On a quand même des textes contemporains.
Oui, mais ce qui concerne les papiers proprement dits de Molière, on a un témoignage qui est son beau-fils, plus exactement posthume, le fils de Armande Béjart, quand elle s'est remariée, qui raconte que, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, quand il a voulu compléter une pièce de Molière inachevée, qui s'appelait Mélicerte, il a cherché dans les papiers de Molière, et il n'a pas trouvé la fin de la pièce qu'il cherchait. Ils ont bien existé, ces papiers de Molière. Mais il n'a pas eu de descendant. Il avait une fille dévote qui a jeté, quand elle a hérité de tout ça au papier, parce que les dévots et l'église n'aimaient pas le théâtre et pas Molière.
Il y a des légendes noires, celles forgées notamment par les dévots. Il y a des légendes dorées aussi chez les contemporains, imprimées du vivant de Molière ou dans les années qui ont suivi.
Dans les années qui ont suivi. Très tôt, la légende s'est mise en place avec l'idée qu'il est mort en scène, l'idée qu'il était malade quand il est mort, l'idée qu'il était un correcteur des mœurs, l'idée qu'il était un homme moral, tout ça, ça s'est mis en place très 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 vite après sa mort.
Et notamment, grâce, est-ce qu'il faut lui rendre grâce, à un nommé Grimaret, dont la vie de Molière paraît en 1705, il y a bien une once de vrai pour pas mal de faux.
Tout ce qu'il y a de vrai, c'est ce qu'il a recopié dans l'édition posthume de Molière, des œuvres de Molière de 1682. Les dates des pièces, quelques renseignements, etc. Tout le reste, c'est du roman. Mais c'est pas sa faute vraiment, hein. C'est parce qu'on ne concevait pas à l'époque la biographie autrement que de cette manière-là.
Ce n'est pas votre faute, chers auditeurs. Si vous vibrez, ce sera la seule fois qui vous sera permise de le faire dans cette émission, à la légende selon Grimaret, telle qu'elle était interprétée par Louis Jouvet. Vous parliez des conditions de la mort de Molière en 1673. Voilà comment elles ont été souvent présentées.
Tant que ma vie a été mêlée également de douleur et de plaisir, je me suis cru heureux. Mais aujourd'hui, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Qu'un homme souffre avant que de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. Allez dire à ma femme qu'elle monte. Il resta assisté de deux sœurs religieuses, de celles qui viennent ordinairement à Paris quêter pendant le carême et auxquelles il donnait l'hospitalité. Elles lui donnèrent à ce dernier moment de sa vie tout le secours édifiant que l'on pouvait attendre de leur charité, et il leur fit paraître tous les sentiments d'un bon chrétien et toute la résignation qu'il devait à la volonté du Seigneur. Enfin, il rendit l'esprit entre les bras de ses deux bonnes sœurs. Le sang qui sortait par sa bouche en abondance l'étouffa.
C'est beau comme du modéré, parce que c'est pas tout à fait la légende classique, il n'est pas mort en scène. C'est pas tout à fait la légende de la malédiction, parce qu'il a failli avoir l'extrême onction, il est mort entre deux religieuses, et c'est faux.
Il y a une partie de vrai et une partie qui est fausse. Le fait qu'il soit mort étouffé dans son sang, c'est vrai. On sait qu'en février 73, il y a énormément de gens qui sont morts de bronchite à Paris. On a un témoignage contemporain là-dessus, qui enchaîne sur le fait que Molière en est mort, justement, aussi. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait deux religieuses qui l'hébergeait et qu'il faisait ses Pâques une fois par an. Ça, c'était le moins qu'on pouvait rendre à une société chrétienne à l'époque. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il est mort sans l'extrême onction. Et c'est la raison pour laquelle ça a déclenché évidemment une difficulté pour l'enterrer en terre sainte dans un cimetière, la partie sainte du cimetière. Mais parce que le problème, c'est qu'un comédien, pour qu'on puisse l'enterrer, il faut qu'il abjure son métier de comédien. Même sur son lit de mort, il suffit qu'il dise « plus jamais je ne serai comédien », même s'il va crever dans deux minutes, pour qu'à ce moment-là, il soit absous de son péché d'être comédien et qu'on puisse l'enterrer en Terre Sainte. Alors, Armande Béjart a fait savoir qu'elle avait envoyé deux fois quérir un prêtre à Saint-Sulpice et que, sachant que c'était pour Molière, deux prêtres ont refusé de se déplacer et le troisième, quand il est arrivé trop tard.
C'était un effet de scène que de commencer par la mort de Molière. Il faut qu'on en revienne maintenant au début, et je compte sur votre exigence décapante aussi pour les évoquer. Alors, voilà un homme qui n'appartient pas à un milieu si modeste que cela, dont le père a la charge de tapissier du roi, ce qui lui donne l'accès, même modeste, à la cour. Rien ne vaut une charge, même simple, c'est beaucoup mieux que d'être un homme célèbre par ses écrits.
Mais ce n'est pas un accès modeste à la cour, tapissier du roi, parce qu'ils sont, ils sont huit qui exercent par deux, comme toujours, vous savez, on exerce par quartier à la cour, c'est-à-dire par trimestre, donc ils sont deux chaque trimestre, et ils sont au petit lever du roi, puisque le tapissier a en charge d'aider le valet de chambre à faire le lit du roi, mais ça c'est parce qu'il est chargé de veiller en fait à la qualité de meubles du roi. En fait, le tapissier s'occupe de tout l'ameublement. Ça correspond à un décorateur en fait. Donc c'est une profession qui est très haut placée, la plus haute placée parmi les professions des artisans. Et le fait qu'il fasse partie du petit noyer de 30 personnes qui a accès quotidiennement, un trimestre par an en ce qui le concerne, au roi, ça lui met une place, et d'abord à son père, ensuite à lui, tout à fait considérable.
Et quand un certain légendaire dit que son père voulait le cantonner à cette charge et ne lui a pas fait apprendre à lire et à écrire, il est allé au collège, Molière.
Oui, c'est Grimaret justement qui se contredit entre le début et la fin de son livre, puisqu'il dit au début on n'a pas voulu lui faire une éducation autre que l'apprentissage de tapissier, et ensuite il dit mais finalement j'ai appris qu'il était devenu avocat. En fait, c'est la vérité entre les deux. Il n'est pas devenu avocat, il est allé au collège comme les gens de son milieu social. C'est-à-dire, et quand on dit un collège, c'est un collège qui, à l'époque, allait jusqu'à l'équivalent d'aujourd'hui de la terminale. Les collèges de l'université, il y en avait 54 dans Paris, comme aujourd'hui encore à Oxford, il y a des collèges de l'université. Le système français avant la Révolution française était fait comme ça. Et il est allé au collège, et probablement au collège le plus huppé de Paris, qui s'appelait à l'époque le collège de Clermont, et qui, depuis 80, est devenu le collège Louis-le-Grand, l'actuel lycée Louis-le-Grand.
Donc c'est un fils de décorateur qui va faire valser les meubles sur la scène, et c'est l'élève d'un collège qui va faire valser les règles, avec les catégories très strictes qu'il a apprises au collège. Il va provoquer une grande danse. Les sources qu'on cite d'habitude sont beaucoup moins intéressantes que les archives notariales, qui vont nous dire beaucoup, Georges Forestier, de la fondation de la première compagnie à laquelle est mêlée Molière. Donc c'est l'illustre théâtre en 1643.
Oui, en 1643, un petit groupe de jeunes gens, Molière et des gens qu'il a probablement rencontrés dans son quartier, le quartier des Halles, qui s'associent pour constituer donc une troupe qu'ils vont nommer l'illustre théâtre. C'est des gens très audacieux, et là on voit déjà que transparaît là, comment dirais-je, le caractère non conformiste de Molière, c'est que tous les autres qui commençaient à faire du théâtre, ils devenaient comédiens, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'engageaient dans des troupes de campagne et ils partaient tout de suite en province. Eux, ils ont l'audace de vouloir concurrencer les deux théâtres installés à Paris, que sont l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais.
Mais dit la légende noire, ça va très mal se passer très vite, car alors, excepté les exemples payés, les parents de la troupe et quelques bateliers, nul animal ne vient dans la salle. Et Molière doit demander à ses associés de remettre sans arrêt au pot commun. Nous sommes ici avec Jean-Pierre Darras dans le rôle de Molière, dans un téléfilm de Marcel Camus qui s'intitule « Molière pour rire et pour pleurer », dont vous allez nous dire, bien sûr, Georges Forestier, qu'il ne faut pas le prendre tant que ça au sérieux.
Ah, au jeu de paume de la Croix-Noire, on a vu tout de suite du monde.
Ah
oui, les huissiers.
Oh, pardon.
Ce sont des gens qui manquent de beaux auteurs. Leur répertoire d'une pauvreté. Commandement est fait au surpoclin dit Molière, sous peine des rigueurs prévues par la loi. Commandement est fait, surpoclin dit Molière. Commandement, 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 commandement.
Dehors, huissier. Dehors.
Es-tu fou? Insulter un huissier alors que nous sommes presque perdus.
Oh, pardonne-moi la bile, mais montez au cœur.
Oui, Jean-Baptiste.
Tu crois vraiment que nous avons perdu?
Oui, Jean-Baptiste. Pinel, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont arrêté Jean-Baptiste. Je vais lâcher chez moi. Monsieur le greffier, je proteste.
Ah ah, il proteste. Eh ben, emmenez-le protester avec les autres.
Allez, hop, et... avance.
On a entendu un instant Madeleine Béchard, qui est déjà la maîtresse officielle de Molière, qui, de Jean Poquelin, c'est le même nom et prénom que son père, tapissier du roi, est devenu Jean-Baptiste de Molière. Pour le reste, vous diriez-vous que c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que l'illustre théâtre a eu, dans sa salle du jeu de paume, du succès au début.
Oui, ils ont eu 6 à 8 mois de succès à peu près. Ils ont ouvert la salle, il a fallu 2 mois d'aménagement du jeu de paume, des métayers au bas de l'actuelle rue de Seine, à l'endroit où il y a un petit square entre la rue de Seine et la rue Mazarine. Et ils ont donc ouvert le 1er janvier à peu près, et ils ont eu la chance que le 15 janvier, le Théâtre du Marais a brûlé de fond en comble. Ce qui veut dire que pendant 8 mois, le public parisien, qui n'était pas assez nombreux à cette époque-là pour se partager entre 3 théâtres, et c'est ça qui va causer les difficultés postérieures, s'est partagé entre le quartier des Halles où il y avait l'Hôtel de Bourgogne et la rive gauche, le Théâtre des Métayers où était installé l'illustre théâtre.
Et s'il était resté rive gauche, s'il n'était pas allé rive droite, imprudemment?
C'est pas imprudemment. Ils sont allés rive droite, en fait, en décembre, lorsque la réouverture du Théâtre du Marais en octobre a asséché leur public, puisque le Théâtre du Marais rouvrait avec une pièce qui avait à peine commencé sa carrière de Corneille, qui s'appelle Le Menteur, avec le célèbre Jodelet dans le rôle du valet Cliton. Et c'est à ce moment-là que y a eu plus personne. Donc ils sont allés à la rencontre, ont-ils cru, du public. Donc nouveaux frais, nouveaux prêts, nouveaux investissements, ils sont retrouvés au jeu de paume de la Croix-Noire sur le quai de la rive gauche. Et là, il y avait personne, effectivement, quasiment, enfin, c'est une façon de parler, mais ils ont effectivement eu très peu de public, et donc les dettes n'ont cessé de s'accumuler. Ils sont tombés sur des, comment dirais-je, des bailleurs qui leur prêtaient en même temps de l'argent. Bon, ils se sont fait manipuler sur le plan financier, et ce qui fait qu'effectivement, Molière a fait 2 fois une journée de prison au mois d'août 1645.
Parce que on lui reprochait de ne pas avoir payé les chandelles et de ne pas avoir entretenu le linge. Mais c'était simplement 1 fois, 2 fois, 1 jour de prison.
Voilà, 2 fois un jour de prison, et dont il a été tiré, évidemment, par son père, qui, contrairement à la légende, a toujours soutenu son fils dans cette entreprise.
Enfin, il avait quand même du mal à payer, il payait de mauvais gré, Jean Poquelin. Et les voilà donc tous partis, parce qu'ils décident de récidiver, dans les provinces. Vous nous permettrez quand même de penser au roman comique de Scarron. C'est extraordinaire ce livre, le roman comique de Scarron.
C'est l'histoire d'une troupe de théâtre. Roman comique, ça signifie roman des comédiens. Ça ne veut pas dire roman rigolo. Hein. Ouais. Roman comique, c'est le roman qui concerne la comédie au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire le théâtre.
Parce que c'est pas toujours drôle, la comédie des comédiens et le voyage des comédiens. On songe tous
permettez-nous de le faire encore une fois au capitaine Fracasse, selon Théophile Gautier, le baron de Cigognac, envoyé sur les routes et qui se forme comme il peut.
Levez la tête, c'est ça. La poitrine, la jambe, c'est ça. Plus de dignité, respirez, vous humez l'air. Voilà. Tournez. Voilà, je vais vous montrer. Comme ça. Comme ça. Et hop. Et voilà, un dindon, ah oui. Tout le grotesque d'une dinde. Allez-y, je vous observe.
Eh bien, comment va notre élève?
Il brûle la poche.
Oh, je le savais.
Tout beau. Je sens que le grotesque m'entre bien dans le corps, c'est vrai. Aussi vrai que je suis capitaine et Fracasse, je l'ai tué. Aussi vrai.
Ce soir, occasion unique. Grand spectacle, représentation extraordinaire d'illustres comédiens qui ont eu l'honneur de jouer devant des têtes couronnées donneront une représentation, une seule, car ils sont attendus à Paris où la cour les réclame.
Ces baladins qui serpentent les routes, mais qui sont-ils donc dans leur costume d'or des vagabonds? Ou des dieux en déroute. Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brume, ils danseront pieds nus sur des fils argentés que 5000 araignées tisseront sous la lune d'une branche de houx jusqu'au sapin gelé. Ils sont accompagnés dans leur ronde divine par les enfants des rois aux longs cheveux bouclés. C'est un cortège bleu de 1000 mandolines où flottent un peu partout des voiles de mariée. C'est ainsi que l'on vit le plus grand mariage de la fille du vent avec un arlequin. Mais tout cela n'était qu'un fragile mirage. Et je reste tout seul avec mes lendemains.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Mais qui sont-ils, Georges Forestier, ces baladins, parmi lesquels ils jouent un rôle de plus en plus important? Molière, dans une troupe qui est dirigée par le père fondateur, Dufresne, qui sera là jusqu'en 1658. Une troupe qui porte quand même le nom d'un grand gentilhomme.
Oui, c'est la troupe du duc d'Épernon. Donc ça veut dire qu'ils s'étaient fait une réputation malgré leur échec parisien. Madeleine Béjart passait déjà pour la meilleure actrice tragique de l'époque. Et donc ils sont engagés par la troupe du duc d'Épernon, dirigée par Dufresne. Et le duc d'Épernon, c'est le gouverneur de la Guyenne, c'est-à-dire c'est un des 4 ou 5 plus grands seigneurs de France. Et ils partent vers l'ouest, pas tout de suite vers la Guyenne parce que c'était la peste, mais ensuite ils vont partir et ils vont commencer à sillonner le sud-ouest de la France, puis le sud. Bon,
on regarde la carte qui a été établie par Roger Duchesne, qui a publié une grande biographie de Molière avant la vôtre, très attendue, on voit qu'il y a seulement une vingtaine de lieues pendant 13 ans, parce qu'ils s'établissent durablement.
Ils s'établissent durablement et contrairement à l'image d'Épinal issue du roman comique et du capitaine Fracasse, certaines des troupes les plus huppées en tout cas, celles qui appartiennent à des grands seigneurs, sont des troupes qui sont assez riches pour voyager tranquillement, confortablement, prendre des coches d'eau dès qu'il y a un fleuve, se faire transporter tout leur bagage par des conducteurs de bagages, c'est-à-dire que ils n'ont pas le chariot de Thespis sur lequel ils sont maladroitement assis, dans lequel ils ont froid, etc. Ils voyagent confortablement, richement, ils vont de château en grande ville. Dans les grandes villes, on leur aménage un jeu de pommes, où il y a déjà des jeux de pommes aménagés, ou susceptibles d'être aménagés, par exemple à Avignon, où on a la trace que de 2 passages, on peut reconstituer aujourd'hui, qui sont passés quasiment chaque année, puisqu'à Avignon, c'est la plaque tournante entre le Languedoc et la vallée du Rhône, qu'ils allaient, leur port d'attache, c'était devenu Lyon, assez rapidement. Et à Avignon, il y a 2 jeux de pommes, dans lesquels on a des actes notariés, dans lesquels on a retrouvé le fait que, quand on loue ce jeu de pommes, il y a une partie où tous les matériels du théâtre, ce qu'on appelait l'échafaud, les loges, etc., s'est entreposé pour que, dès qu'une troupe se présente, on transforme le jeu de pommes en théâtre.
Mais ce que vous déchirez, ce ne sont pas les images d'Épinal, ce sont les images de Pézenas, Pézenas, où on imagine assis chez son barbier, Molière écoutant les parlers locaux, regardant de près la vie du peuple.
Ouais. Ouais, comme vous dites. Mais il est allé à Pézenas deux fois plusieurs semaines, parce que l'un des grands enjeux du Languedoc, c'est qu'on invitait la troupe pour distraire les députés aux États, puisqu'il y avait les États généraux de la province, qui avaient conservé une certaine autonomie par rapport à d'autres provinces, de ce point de vue-là. Et donc, pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, quelquefois quatre mois, durant lesquels s'étalaient ces sessions des États du Languedoc, la troupe était invitée, grassement récompensée, et toute autre troupe était interdite de séjour dans la ville où se déroulaient les États.
Donc, comme ce n'est pas une troupe de capitaine fracasse, on y joue des choses qui ne sont pas nécessairement les farces populaires qu'on imagine.
Non.
On y joue de la tragédie.
On joue le répertoire. Qu'est-ce qu'attendent les élites de la province, puisque c'est pour les élites de la province que jouent les comédiens? Ils attendent qu'on joue les mêmes choses qu'à Paris, c'est-à-dire les choses qu'on crée à Paris le plus tôt possible après les créations parisiennes, c'est-à-dire du Corneille, du Rotrou, du Tristan l'Hermite, etc. Ouais. Quel est leur répertoire le plus prestigieux? C'est la tragédie.
Donc quelques Molière comédies, est un tragédien, un sûr, acteur de tragédie.
Bien sûr, bien sûr. Quand il se fait peindre à Avignon par le propriétaire du principal jeu de pommes d'Avignon qui s'appelle Nicolas Mignard, qui est un grand peintre de l'époque, le frère aîné de Pierre Mignard, et il se fait peindre en César dans une pièce de Corneille qui s'appelle La mort de Pompée.
Donc c'est un homme assez riche qui, en 1658, a les moyens d'être peint par un Mignard, il y a d'autres portraits de lui de Pierre, l'époque, et qui va décider la faveur du prince de Conti ayant tourné, parce que parmi les protecteurs, il y a eu le prince de Conti qui s'est converti à un catholicisme dévot et qui n'aime plus le théâtre à la fin. Bon, bah, il va décider de s'installer avec son groupe à Paris, dans une première salle, le Petit Bourbon. La place est libre, là aussi, parce qu'à Paris, il n'y a plus qu'une troupe.
Voilà, la place est libre, et je pense que quand on voit qu'il séjourne en 1657 pendant tout l'été à Dijon, alors qu'on a des recettes, on voit que les recettes sont faibles, on se demande pourquoi. C'est que Dijon, comme l'été suivant, en 58, ils vont passer six mois à Rouen. Dijon et Rouen, c'est les deux plus villes les plus importantes qui sont proches de Paris, et ils guettent l'occasion. Et l'occasion, c'est que depuis 57, justement, le Théâtre du Marais est fermé, la troupe est débandée, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est reconstituée en troupe de campagne, les comédiens sont partis, le célèbre Jodelet est à la retraite, en semi-retraite à ce moment-là, et donc finalement, ils décident d'essayer de tenter leur chance à Paris. Et même l'été 58, pendant qu'ils sont à Rouen, Madeleine Béjart, qui est une femme d'affaires avisée, riche, qui visiblement achète des décors qu'elle loue à sa propre troupe, loue la salle du Marais pour son propre compte, sans doute pour la relouer à sa troupe, et puis ils sont tombés dans une occasion opportune au bon moment où on attendait que d'une certaine manière.
Le Petit Bourbon, une grande salle longue qui a servi à la tenue des États généraux de 1614. Et arrivé à Paris, la troupe change. Dufresne va aller prendre sa retraite en Normandie. Arrive un jeune homme qui s'appelle Lagrange, qui est très intéressant parce que c'est un garçon méticuleux. Et pour les historiens, une manne.
Voilà, c'est une manne. Il y avait toujours quelqu'un, tantôt lui, tantôt un autre, jamais Molière, qui tenait les cahiers de compte de la troupe, les registres. Mais lui, au début des années 80, il a décidé de préparer des mémoires pour quand il serait à la retraite, et donc il s'est mis à recopier tous les registres de compte. Alors que les registres de compte, c'était une page par journée, lui, il a consacré une ligne par journée, c'est-à-dire la recette globale et la part qui revenait à chaque acteur. Et c'est grâce à ça qu'on sait ce qu'il jouait et combien ça a rapporté.
Vous êtes professeur d'histoire du théâtre à Paris-Sorbonne. Voici vos compères d'il y a plusieurs générations, à la Radio Nationale en 1950. C'est une émission écrite par le grand Léon Chancerel pour la Société d'Histoire du Théâtre. Et on se penche sur les recettes, le coût des places au parterre et dans les loges.
Approchez-vous. Voici le registre du comédien Lagrand. Ouvre-le.
Et voici dans les marges des losanges, les points, les ronds et les croix dont vous parliez.
C'est émouvant comme le livre de bord d'un navire.
Et un théâtre, d'ailleurs, c'est aussi un navire menacé par mille bourrasques et récifs, sans parler des bourrasques intérieures.
Tous ces chiffres au bout des lignes à chaque page.
La recette, le chiffre de la recette.
Il faut être directeur et chef de troupe pour sentir fortement ce que cela représente dans l'histoire de Molière, de sa troupe et aussi dans le théâtre en général, que la recette journalière.
La feuille de température, dit Jouvet.
Derrière les chiffres, là, ces deux traits perpendiculaires avec une barre transversale, ça veut dire quoi?
Ça veut dire livre. On calculait alors non pas en francs, tu sais, mais en livres.
Et quel était le prix des places?
Alors, eh bien, vous serez étonné, les places les moins chères, les places de parterre, coûtaient 15 sols, donc 360.
Debout.
Et les places chères?
Les places d'amphithéâtre, ou les places de première loge, valaient 3 livres, 1340 francs. Quant aux places sur le théâtre, vous savez, les banquettes placées sur la scène de plein pied avec les acteurs...
Les places les plus recherchées, celles des marquis dont se moque Molière. Voyez les faces, j'étais sur le théâtre.
Une place sur le théâtre valait 6 livres ou un demi-louis d'or, c'est-à-dire, tenez-vous bien, près de 3000 francs.
Comme quoi, du moins, en ce qui concerne le théâtre, le prix de la vie a singulièrement baissé depuis le XVIIe siècle.
Et remarque, hein, remarque que pour les premières représentations, on jouait à ce qu'on nommait l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on doublait le prix des places.
Et comme pour le réveillon.
Donc on perd, on parle en francs 1950, mais enfin, l'idée qui est juste, c'est que les prix étaient très élevés, réservés, aux privilégiés.
Oui, ils ne peuvent jouer que devant les privilégiés, c'est-à-dire comme l'extrait l'a montré, effectivement, sur le théâtre et les premières loges sont à 5 livres et demi ou 6 livres, selon les périodes. Les deuxièmes loges et l'amphithéâtre à 3 livres, et le parterre à 15 sous, c'est-à-dire 3 quarts de livre, puisque 20 sous égale 1 livre, hein, ou 1 franc, hein, c'est l'équivalent. Un franc de l'époque, bien sûr. Et ce qui veut dire que quand on sait qu'on jouait à l'extraordinaire, c'est-à-dire pour les créations, c'est-à-dire à 1 livre et demi, et qu'un ouvrier, un manœuvre, un laquais, etc., s'il gagnait 10 livres par mois, c'était un maximum. Donc, les légendes selon lesquelles une salle de théâtre, le parterre, est extrêmement mêlé, oui, il est mêlé entre des bourgeois plus ou moins riches, entre les bourgeois riches commerçants et les bourgeois pauvres commerçants, quelques compagnons, etc. Mais dans l'ensemble, c'est ceux-là seuls qui peuvent se payer cette fameuse livre et demi pour la création ou ces 15 sous lors des pièces ordinaires, si je puis dire.
Le laquais peut venir en forçant la porte et alors il va se trouver face à face avec le portier.
Avec le portier, et il y a plusieurs portiers qui ont laissé la vie dans l'histoire. Hein, et régulièrement, il y avait des portiers tués dans tous les théâtres parce que il n'y avait pas seulement les laquais, il y avait les hommes d'armes qui prétendaient rentrer avec leurs armes et ils transperçaient les laquais. Oui,
mais
un métier dangereux.
Les portiers n'avaient pas la meilleure part. En revanche, les comédiens s'adjugeaient des parts.
Ce qui est remarquable, c'est qu'une troupe de théâtre, à l'époque, toutes les troupes sont organisées sur le même système, dont a hérité la Comédie française en 1680. C'est-à-dire, on partage la recette, déduite des frais, bien sûr, des frais fixes ou des frais extraordinaires, selon quand quelquefois il y avait tellement de chahuts à l'entrée du théâtre lorsque la pièce avait du succès, qu'on louait des soldats pour protéger les comédiens et assurer le bon fonctionnement de la pièce. Et donc, une fois déduits ces frais, on partageait en autant de parts qu'il y avait de comédiens. Même si le comédien jouait pas ce jour-là, même s'il était nul et qu'il jouait très peu, il avait la même part de la recette que le meilleur d'entre eux. Ce qui fait que Molière, en 61, demande une deuxième part de comédien pour lui. Et qu'on va instituer un système qui est qu'en tant qu'auteur, pendant la période d'exclusivité de chacune de ces nouvelles pièces, il touche deux parts en tant qu'auteur. Mais il demande une deuxième part. Et les comédiens lui disent, d'accord, mais si par hasard tu te maries, eh bien, vous garderez deux parts avec le couple que tu formeras, éventuellement, si c'est une comédienne.
Eh bien oui, il savait sans doute qu'il y avait Anguille sous roche, et qu'en 1662, Armande Béjart, la fille, la nièce de Madeleine, épouserait Molière. Il est quand même confortablement installé, et les Béjart aussi, avec qui il est associé familialement dès l'arrivée à Paris.
Bien sûr. Je veux dire, ils se sont considérablement enrichis. S'il a fait quelques jours de prison, est-ce que s'il fallait s'efforcer de laisser traîner le remboursement des dettes jusqu'en 1659, en fait, il aurait pu très largement les rembourser bien avant, puisqu'on voit Madame Béjart qui prête des milliers de livres au milieu des années 50. Je veux dire, donc, ce qu'ils gagnent en province, ça fait d'eux des gens riches. Et à Paris, désormais, ils vont être encore plus riches, puisqu'ils ont à la fois les revenus du théâtre, et très tôt, ils séduisent Louis XIV, et ils ont des revenus, des gratifications du roi.
C'était notre première émission, Georges Forestier, L'Envol, c'était un bon titre, de Jean-Baptiste, jusqu'à son installation confortable à Paris, où il se retrouve dans un milieu qu'on va pouvoir qualifier d'un mot de l'époque, mondain ou galant. Je rappelle votre édition de Molière dans la Pléiade, en 2 volumes, avec Claude Bourqui. L'émission était préparée par Martin Cellier, avec à la réalisation Stéphane Ronxin et à la technique Stéphane Poitevin.